I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Les perfections perdent leur lustre si on les regarde de trop près. Balthazar Gracian. Le perfectionnisme ne vous fait pas sentir parfait. Le perfectionnisme vous fait vous sentir inadéquat. Maria Shriver. La poursuite des perfectionnements exclut la recherche de la perfection. Perfectionner s'oppose à parfaire. Paul Valéry. Bonjour tout le monde, Emmanuel avec vous cette semaine. Et parce que des phrases comme « la beauté est dans les imperfections » et « on doit apprendre à être parfaitement imparfait », des fois pour les perfectionnistes de ce monde, c'est des phrases qui peuvent taper ses nerfs. Genre moi, mettons que moi, ça me tape ses nerfs. Et c'est pourquoi je nous donne l'espace, on se donne l'espace, je me donne l'espace pendant une heure d'une psychothérapie gratuite sur le perfectionnisme qui m'habite encore aujourd'hui. Effectivement, il reste beaucoup de questions sur ce thème qu'est le perfectionnisme et la perfection. Est-ce que la perfection existe? Si oui, elle ressemble à quoi? Sinon, pourquoi on continue de la chercher? Est-ce que la recherche de la perfection a des bons et des mauvais côtés? Est-ce qu'elle s'arrête à soi également ou est-ce que le désir de perfection, les exigences, les attentes, on les entretient pour ceux qui nous entourent, les entourent également? Est-ce que les perfectionnistes s'arrêtent d'être perfectionnistes après soi, ou finalement tout le monde est obligé d'embarquer dans le bateau, mettons? Et est-ce que ce désir de perfection-là nous rend maître ou nous contrôle? Pour en discuter cette semaine, nos invités de choix, Thierry Oldrinet, François Baruel et Chérine Dakak. Bienvenue à On est tous des humains.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Thierry Oldrinet, depuis 25 ans, tu es stratège et concepteur dans le domaine des communications. Tu es publiciste. Tu es président, réalisateur et concepteur pour Oldry.net Incorporé, ta compagnie de publicité, qui a d'ailleurs travaillé avec Toyota, L'Oréal, Vidéotron, Bombardier, Le Journal de Montréal et Volkswagen, pour ne nommer que ceux-là.
Que ceux-là, il y en a plusieurs.
Sinon, l'émission serait finie.
En 30 ans, oui, à peu près. On dit 25 ans. Entre 25 et 30 ans, au moins. Non,
il y a plusieurs pages, disons, de compagnies avec lesquelles tu as travaillé. On te doit également la conception de l'émission Course Évasion autour du monde.
Le retour.
Oui. Et également derrière la conception de la chaîne spécialisée Zest, ta carrière dans l'image, le branding et le marketing audio, télévisuel, web et dans les médias écrits t'amènent à visiter les plus grands désirs de perfection de la société comme un tout non divisé et ou divisable. On ne sait pas. Bienvenue à l'émission,
merci.
Thierry.
Merci beaucoup.
François Baruel, tu es médecin généraliste, stomatologue de formation. Actuellement retraité, tu restes très informé, très passionné par l'humain également, tant dans son aspect physiologique que psychologique. Tu es d'ailleurs ici chroniqueur à Canal M sur la santé, plus précisément dans l'émission Aime la vie, que j'ai le plaisir d'animer également. Donc, on se côtoie fréquemment. C'est ton deuxième passage à l'émission On est tous... Oui, on est tous des humains. C'est ton deuxième passage à On est tous des humains. Et tu as été en contact avec la perfection et le désir de perfection souvent dans ta vie. Tu as besoin d'être assez perfectionniste et méticuleux dans ton travail, du moins, et aussi pour refaire ses visages, refaire ses bouches. C'est quand même une recherche de perfection. Tu vas nous en parler aujourd'hui. Mm-hmm. Merci d'être là, François. Chérine, psychologue clinicienne, ton troisième passage. Tu deviens un pilier. On est tous des humains à partir d'aujourd'hui. Pour moi, 3, c'est un chiffre magique. Tu t'intéresses spécialement aux schémas qu'une personne peut développer et intégrer, surtout au cours d'une vie, et qui dirige ses pensées, ses actions. Le perfectionnisme en fait partie, d'ailleurs, de ces schémas-là. Il peut nous mener à croire certaines choses sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure et qui commence finalement à dicter nos choix. à dicter nos actions et donc nos vies. Tu es là pour nous en parler en long et en large. Merci, Chérine, d'avoir accepté encore une fois l'invitation.
Avec plaisir.
C'est sûr que la première question qui s'impose à nous, c'est est-ce que la perfection existe?
Oh, ça.
Et non, mais on vous a posé la question. Il y a quand même une petite division ici dans la mesure où, Chérine, pour toi, c'est un non catégorique. France, j'imagine qu'il y a une petite relativisation à faire, mais quand même.
Ça dépend pour qui, hein?
Tu penches vers le non. Même chose pour François ici. Et François, tu nous parles du paradoxe de Zénon qui est en lien avec la perfection. Qu'est-ce que c'est que ça?
Non, c'est simplement qu'en fait, on ne peut jamais atteindre le but, puisque on a toujours, c'est le paradoxe de Zénon d'Élée qui explique qu'on ne peut jamais atteindre le but parce qu'on a un but et ensuite c'est l'histoire de la flèche qui n'atteindra jamais son but. Parce qu'on a toujours la moitié de ce qu'on cherche à faire, on n'obtient que la moitié de ce qu'on cherche à faire. Mmh. Donc on ne peut jamais atteindre la totalité, puisque le chemin qui reste est toujours la moitié, mais la moitié de la moitié, etc. Donc c'est toujours infini. On cherche toujours infiniment à la perfection, mais en réalité on ne peut jamais l'atteindre. C'est mathématique, c'est très simple. Mmh. En fait, quand on cherche à atteindre la perfection qui n'existe pas, on ne peut pas faire la totalité du chemin. Donc, il reste toujours un bout de chemin à faire. Ouais. On en fait toujours la moitié.
Oui, t'as l'air d'accord, Thierry, ça t'interpelle.
Je vois très bien Moi, je dirais non aussi, mais encore là, ça dépend de qui l'observe. Ça dépend de qui évalue ou qui analyse l'objet, l'acte, peu importe. Dans le regard de qui est la perfection de soi, des autres, ça dépend du contexte. Donc, est-ce qu'elle existe? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut tendre vers? Puis encore là, qu'est-ce que c'est que la perfection? C'est ça aussi la question.
Mais tu as apporté quelque chose d'intéressant quand on s'est parlé. Tu as dit, chez l'humain, moins, peut-être un peu moins. Par contre, dans la nature, il y a certaines choses qui se ramènent proche de la perfection.
J'ai l'impression, mais encore là, c'est la nature observée par l'humain.
Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est même la perfection est variable et non un absolu?
Moi, je pense qu'on sait que la perfection en tant que telle n'existe pas, d'accord? Mais lorsqu'il s'agit d'un perfectionnisme sain, alors parce que le perfectionnisme sain existe, hein? Dans ce cas-là, la personne reconnaît que la perfection n'existe pas, même si elle essaie de faire de son mieux, d'accord? Donc, elle reconnaît que les choses ne sont pas classées en tout noir ou tout blanc, elle reconnaît qu'elle a des critères de réussite qui sont réalistes, d'accord? Donc, ça, c'est un perfectionnisme sain, je dirais.
Mais d'être consciencieux.
Exactement, et que ce ne soit pas quelque chose qui nous amène une souffrance à côté. Par contre, le perfectionnisme malsain, c'est le perfectionnisme qui est excessif. Parce que quand on parle de perfectionnisme, c'est comme sur un continuum. Si je fais un travail manuel méticuleux, admettons que je travaille dans la bijouterie, je dois faire quelque chose de vraiment méticuleux. Bon, alors le perfectionnisme dans ce travail-là pourrait être important, à mesurer des grammes d'or, etc. Donc ça, c'est important. Ou bien être chimiste, fabriquer des médicaments.
Être chirurgien.
Exactement. Donc, et n'oublions pas que le perfectionnisme, ça peut toucher une sphère de notre vie, comme ça peut toucher plusieurs. D'accord? Donc si ça se limite au travail manuel que je fais et qui doit être très précis, bon, il n'y a pas de problème. Mais si ça va au-delà, ça touche la vie personnelle, je l'impose aux autres, je me fatigue à vouloir atteindre la perfection concernant mon look, concernant comment je fais la cuisine, concernant les relations, là, ça peut être problématique.
Oui, mais parce que moi, je me considère comme une perfectionniste... je le sais, tu sais, mettons. Là, je suis consciente de ça. Et c'est correct, tu sais. Il y a une partie de moi qui comprend que la perfection n'existe pas. On ne peut pas, par contre, se dire qu'un cercle parfait n'existe pas. Il y a quand même mathématiquement un angle qu'on peut créer avec un compas qui crée un cercle parfait. Et il y a toute cette idée où la perfection sous-tend la notion de complétion. Tantôt, tu as parlé que la complétion n'était pas possible, ou du moins parce qu'il y a une infinie...
C'est pour ça que c'est toujours frustrant, finalement. Il y a toujours une frustration dans la recherche de la perfection.
Mais quand je pense au cercle, je veux dire, il y a quelque chose en dedans de moi qui résiste à cette idée que la perfection n'existe pas. Comment? Mais il y a un autre côté qui sait qu'elle n'existe pas. Comment ça qu'on la cherche encore, mais même quand on le sait?
Oui, d'où ça vient?
C'est pathologique, cette affaire-là. C'est de la névrose.
Pas ben, nécessairement. Si ça atteint certaines limites, je dirais que oui, mais tout ce qui est avec limites, c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc, quand on connaît que c'est quoi nos limites et nos forces, quand on sait arrêter, quand on a assez travaillé, ça, ce n'est pas malsain. Mais lorsqu'on se pousse à travailler des heures, à faire des nuits blanches, à vouloir atteindre la perfection, quand on saute un repas parce qu'on est en train de travailler sur quelque chose et on s'oublie, quand on devient perfectionniste, pas seulement pour notre propre plaisir, mais pour plaire aux autres, pour avoir l'approbation, parce qu'on pense que notre valeur personnelle est en lien avec ça, ça pourrait être problématique.
Oui, et ça, bien évidemment, c'est... Jusqu'à quel point cette recherche, cette quête de perfectionnisme me fait plaisir ou pas? Oui. Où est-ce que ça s'arrête? Il y a un documentaire qui vient de sortir sur John McEnroe, qui était un grand joueur de tennis des années 80 environ, qui était reconnu comme étant un être insupportable. C'est-à-dire que sur le terrain de tennis, c'est un grand joueur. D'ailleurs, là, je pense que le documentaire s'appelle « L'Empire de la perfection ». Donc, c'est un joueur qui était un artiste sur le terrain qui et donc dans le documentaire, je l'ai pas vu au complet, j'en ai vu des petits bouts, mais c'est que des extraits de films vraiment pris presque à l'entraînement à son insu et tout ça, et on voit vraiment le comment ce type-là recherchait tellement la perfection qu'il en était finalement devenu, il en est devenu presque insupportable pour lui-même, pour les autres évidemment. C'était une terreur sur le terrain et hors du terrain, à toujours chercher cette perfection-là. Mais c'était aussi un des très très grands joueurs de tennis. C'était vraiment un artiste en même temps sur le terrain.
Il y a comme deux côtés à une même médaille. On parle de débordement chez les autres quand ça commence à briser notre santé physique, notre santé mentale, nos relations. Quand on ne retrouve plus de bien-être dans cette recherche-là, on peut commencer à se questionner. On va se poser la question dans quelques instants. D'où ça vient, ce désir de perfection-là?
Perfectionniste, on ne le sera jamais assez. Le succès n'est pas toujours aisé, je vous le dis. Quand viendra le succès?
C'est pas dans la poche, il faut trimer. Se lever le cul comme un baudet.
Ne déconne pas, il faut pas déconner. Déconner, déconner, déconner. Déconner, déconner.
N'abusons pas des effets,
car les effets,
il ne faut pas en abuser.
Reprenons, non, nous le maintien qu'il nous faut. Tu le sens, invraisemblable ton. Travaillant assidu, ininterrompu, fastidieux parfois, mais combien nécessaire pour pouvoir rester au sommet de la
Ta-da-dee-da-da-dee, ta-da-dee-da-da-dee.
L'athélophobie, ça, c'est la peur de l'imperfection. C'est la peur de ne pas être assez bien. Et là, ça fait émerger en moi ce questionnement, à savoir, est-ce que le perfectionnisme, à ce moment-là, c'est une recherche de perfection ou c'est une fuite complète et totale et à tout prix de l'imperfection?
C'est assez bien pour qui? Être assez bien pour qui?
Je pense que c'est pour soi-même à ce moment-là, de ne pas être assez bien soi. Donc, je vous pose la question.
Ça dépend, non?
C'est pas pour soi, c'est en fonction d'un certain modèle.
Absolument. Mmh. Ou du regard des autres.
Du regard des autres, mais d'où ça vient? Ça vient de très loin, ça encore. Ça vient de bien... Ça, c'est pas nouveau. C'est jamais nouveau, le perfectionnisme. Ça vient de l'enfance, a priori. Je pense qu'il y a quelque chose
un grand
comme...
classique.
Bah oui, un grand classique. Mais, ouais. Mais c'est vrai que le perfectionnisme, apparemment, ça vient d'un modèle qu'on a et qu'on a toujours besoin de suivre en réalité. Et c'est quand il devient malsain ou quand il n'est pas digéré ou quand on n'a pas dépassé cette situation-là que ça devient pathologique. Sinon, en effet.
Tout à fait, oui, parce que ça peut venir d'un trait de personnalité ou même d'un trouble de personnalité, mais ça peut, comme François vient de le dire, venir de modèles, comme des modèles parentaux, ou quelqu'un qui a eu des parents trop exigeants, donc qui était perfectionniste, qui voulait que leur enfant soit parfait. Donc, mais aussi, comme tu viens de dire, Emmanuel, c'est que parfois on a peur de ne pas être parfait. Donc, et ça me fait penser à un sentiment d'infériorité. Donc, quand la personne a ce qu'on appelle un schéma d'imperfection et de honte, donc elle va vouloir compenser avec un schéma d'exigence élevée. Donc, elle va vouloir être parfaite parce que, selon ses croyances à elle, si elle n'est pas parfaite, donc elle ne vaut rien. J'exagère un petit peu, mais parfois la personne a des pensées dichotomiques comme ça qui font que, à cause de ces pensées erronées-là, elle va vouloir s'épuiser à vouloir atteindre le perfectionnisme qui n'existe pas d'ailleurs.
Sinon, on l'aimera pas.
Parce que ça revient toujours à ça, l'amour des autres, tu sais. On le voit clairement. Donc, il y a un schéma de honte qui peut se développer à travers l'enfance, qui peut créer ça et qui fait que la personne va surcompenser.
Tout à fait, tout à fait. Mais ce n'est pas juste ça, il peut y avoir plusieurs raisons pour le perfectionnisme. Comme on a dit, les modèles parentaux, les exigences parentales, mais aussi le système éducatif. Quand il y a des pressions des enseignants, quand il y a le désir de surpasser à l'école, quand il y a parfois aussi certains standards culturels et même certaines... pensées qui proviendraient des religions, la notion de bien et de mal. Si c'est pas comme si, c'est pas bon. Donc, tout ça pourrait créer chez la personne des pensées erronées.
Est-ce que ça veut dire que dans certaines cultures, le perfectionnisme fait partie de la manière d'être?
Ben, ça pourrait. Je ne suis pas spécialiste.
Aux yeux d'une autre culture, j'imagine, parce qu'à ce moment-là, tout est une question de relativisme, mais on va parler de notre culture, de notre société. Et je m'adresse à toi, Thierry, parce que tu es quand même... émergé, t'es immergé là-dedans.
J'allais l'observer.
Absolument. Oui, oui, oui. Et je me questionne parce que on se dit souvent que la société va nourrir. Entre autres, on parle souvent de l'image de la femme, de nourrir ces idéaux-là de la femme parfaite, du corps parfait, de l'auto parfaite, de la maison parfaite, de tout ce qu'on voudra de parfait. Là. Mais je me dis, à quelque part, la société, c'est chaque individu pris lui seul mis en groupe.
Ouais.
Donc, à quelque part, d'où c'est parti ça? Est-ce qu'il y a un désir profond qui est présent chez tout le monde, qui a créé en masse, qu'on doit nourrir?
Je pense que quand on parle de d'images ou de stéréotypes ou autre, ça évolue constamment. C'est-à-dire que nos référents de perfection sur la beauté, par exemple sur l'esthétisme, sont très différents aujourd'hui d'il y a 100 ans, d'il y a même 30 ans. Donc ça veut dire que, donc par essence, c'est imparfait. C'est-à-dire que ça évolue constamment. Par contre, moi, puis j'ai bien hâte d'entendre le médecin ou le psychologue, je me demande si... je pense qu'il y aura toujours justement cette imperfection, mais même plus qu'elle sera là, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une recherche d'imperfection dans tout ce qui est du côté humain, des arts, des relations humaines, de la communication et tout ça. Il y a toujours cette recherche parce que l'imperfection et la perfection, cette recherche de perfection, c'est un peu la corde raide sur laquelle on marche et on aime se mettre en péril, mais il n'y a pas de danger là. Mais par contre, dans les sciences, Et je regarde tout l'avènement, évidemment, de l'intelligence artificielle. C'est ça. C'est une recherche collective. C'est d'agréger toutes les connaissances collectives pour l'encapsuler dans des programmes informatiques qui vont nous permettre d'arriver constamment au, idéalement, le meilleur résultat. Donc, il y a là une espèce de recherche, une aide à la perfection, une aide au perfectionnement. Je regarde les médecins. En médecine, l'intelligence artificielle, de plus en plus, est là, devient fait un bout de chemin pour vous. Et il y a évidemment, après ça, le corps humain est différent pour chacun. L'intervention du médecin va venir compléter, mais on s'attend à ce que dans l'intelligence artificielle, il y a toujours le même résultat.
Mais cette variabilité de la perfection revient souvent dans les discours. Je trouve ça absolument fabuleux parce que ça contrecarre complètement cette idée d'absolu, de recherche qui n'existe pas. Elle devient de plus en plus claire. Tu as soulevé quelque chose d'intéressant également en mentionnant que cette perfection-là va changer tout le temps. Je me dis, à un moment donné, on devient frustré. C'est classique, à la limite.
En fait, c'est le regard qu'on porte sur la perfection qui change.
Oui, bien sûr, les standards vont changer, mais à ce moment-là...
Mais la recherche continuera de toute façon, même si les standards changent. Recherche continuera et sera toujours aussi frustrante, en réalité.
Mais est-ce que, justement... par réaction à cette perfection-là qu'on est tanné d'entendre, est-ce que l'imperfection ne deviendrait pas le nouveau standard et donc ne deviendrait pas la nouvelle perfection ces temps-ci?
Ça serait la même chose.
Ouais. Et justement, ça serait ironiquement ça.
Moi, je pense qu'on ne peut pas être parfait, mais on peut être parfaitement humain. Et ça, c'est important de l'accepter. Quand on reconnaît que c'est possible d'être parfaitement humain, ça, c'est déjà bien parce que quand le perfectionnisme est malsain, la personne est anxieuse avant même de commencer une tâche. Donc, peut-être qu'elle n'est pas faite pour cette tâche-là. Peut-être qu'elle devrait travailler sur son perfectionnisme. Là, là des questions se posent.
Oui. Ben, entre être... parfait ou rechercher la perfection et être minutieux, c'est deux choses aussi. Hein. C'est-à-dire que... Et ça sera toujours aussi en regard de soi-même. Jusqu'où on est bien, heureux, à l'aise, satisfait dans le résultat qu'on a atteint. Évidemment, tant qu'on ne l'est pas, on se dit, on se fait un effort. Mais c'est à chacun, je pense, en bon chinois, à dealer avec ça. Là.
Est-ce qu'un perfectionniste est satisfait un jour?
Ben, quand il s'agit d'un perfectionniste excessif, là, où le perfectionnisme est vraiment malsain, la personne va rarement être satisfaite hein, parce que quoi qu'elle fasse, elle n'atteindra pas la perfection. Donc, à l'intérieur d'elle, elle pourrait bien penser que la perfection existe, mais elle pourrait patiner et rester sur place, hein, avancer. Mais pour elle, c'est comme si elle n'a rien fait.
Oui.
Et ça peut devenir très souffrant.
Mais c'est un peu paradoxal parce qu'on a parlé tout à l'heure de cette idée de valoir quelque chose, donc de valeur individuelle. On est rendu dans l'estime, dans la confiance personnelle. Si la personne n'atteint jamais quelque chose qui la rende satisfaite, à ce moment-là, elle ne peut jamais développer une estime ou une confiance personnelle suffisante. Et là, la roue tourne indéfiniment.
Exactement, parce que le problème peut être beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Hein, parce que si la personne veut plaire aux autres ou s'éviter des conséquences négatives qui sont souvent dans sa tête, les pensées erronées, elles sont toujours là. Donc, la personne va toujours vouloir être parfaite, entre guillemets parfaite, et elle n'arrivera jamais à la perfection.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your give my all to you.
even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head. I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me.
On est tous des humains, se poursuit. On parle toujours de perfectionnisme avec nos invités Chérine Dakak, Thierry Oldrinet et François Baruel.
Made a wrong turn once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decision. That's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, displaced, misunderstood, misknowing.
swallow the fear. The only thing I should be drinking is an ice cold beer. So cool in line, and we try, 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 but we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah!
Aidons-nous, quand on parle des cognitions, donc de cette façon de réfléchir que les perfectionnistes ont, soit, entre autres, d'être dans le tout bien ou tout mal, d'être dans le noir ou dans le blanc. On va aller dans les conséquences à la fois positives et à la fois négatives de ces traits de perfection-là que les gens peuvent entretenir, parce que j'imagine que, comme dans toute chose, c'est pas juste négatif ou c'est pas juste positif. Qu'est-ce que ça peut avoir de positif d'être perfectionniste à ce moment-là?
Hey, moi, je veux pas les défendre, les perfectionnistes. Mais, en même temps, je me demande jusqu'à quel point c'est pas ces individus-là qui, bien souvent, font le plus avancer certains pans de la société. C'est-à-dire que après ça, leur bibitte, là, c'est leur problème, là. C'est sûr qu'il y a toujours des victimes collatérales. Ça en fait, comme on disait tout à l'heure, des gens qui peuvent être insupportables parce qu'ils ont toujours essayé de chercher la perfection. Mais en même temps, leur quête de perfection, même s'ils ne l'atteindront jamais, je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Mais c'est des gens qui permettent de faire des pas de géant dans certaines sphères très souvent. Je regarde des Steve Jobs, par exemple, chez Apple. C'était un être insupportable, oui, mais il cherchait constamment la perfection technique, design et tout ça. Je regarde des Michael Jackson, Madonna en musique. C'est des gens qui, autour d'eux, ils aspirent énormément, ils sont extrêmement exigeants. On parlait de McEnroe tout à l'heure, Henry Ford dans le domaine automobile, Walt Disney. C'est des gens qui étaient... Charlie Chaplin était, semble-t-il, quelqu'un qui était très difficile à vivre parce que constamment absorbé par son art. Mais c'est en même temps, quand on fait le bilan, nous, on est content de ne pas avoir vécu avec eux, mais parce qu'ils étaient des monstres. Mais c'est des gens qui ont fait évoluer leur domaine et la société à des vitesses quand même intéressantes, là.
Mais c'est ce que tu dis, toi, tu dis dans l'insatiable... Dans l'insatiabilité que peut présenter un perfectionniste, il y a cette idée d'analyse et de recherche perpétuelle qui fait en sorte que le processus, si on tasse le résultat, le processus, lui, est absolument très riche en lui-même.
Souvent, oui. Mais évidemment, après ça, il y a ceux qui font une quête de perfection qui ne vont pas nécessairement dans le sens de nos valeurs, là, mais on en a vu quelques-uns dans l'histoire et on en connaît quelques-uns aujourd'hui. Mais leur quête est tout à fait dans nos normes, dans nos objectifs, ben c'est parfait.
Ça, tu parles des perfectionnistes qui sont des positifs, c'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui sont tellement obsessionnels et tellement, disons, angoissés qu'ils sont bloqués dans leur travail. Parce que c'est ça le problème. Ce sont ceux qui ne peuvent plus avancer parce qu'ils sont bloqués sur le détail qui les bloque, qui va les empêcher de quitter le bureau le soir. Hein, c'est ça.
Absolument.
Absolument, parce que la personne qui cherchait la perfection et qui s'épuisait à vouloir être parfaite, elle pourrait finir par se heurter à un mur. Et donc, si elle fait un burn-out, si elle fait une dépression, ben, il n'y aura plus de travail. Elle ne pourra plus vouloir faire quoi que ce soit pour s'actualiser ou bien pour être parfaite. N'oublions pas que non seulement on peut finir par avoir un burn-out, une dépression, mais des troubles anxieux, un problème de gestion de stress. Et parfois, on peut même perdre notre emploi, même si on est de bonne foi, on veut être parfait, mais on finit par pouvoir, par s'épuiser, par vouloir changer d'emploi ou bien par être en arrêt de maladie pour ça. Hein. L'insomnie, ça pourrait être une des conséquences aussi. La personne qui veut être parfaite peut ruminer toute la nuit. Qu'est-ce que je vais faire demain pour être parfaite? Donc...
Mais il y a aussi ce penchant-là où on pense au perfectionniste comme étant quelqu'un d'extrêmement acharné dans son travail, mais il y a aussi la procrastination, le fait de ne pas agir qui peut intervenir à quelque part.
Bien sûr, puisqu'en fait, on n'a pas envie de... C'est tout ou rien, il faut pouvoir tout faire. Et si on ne peut pas tout faire, il vaut mieux pas se colter avec cette difficulté de tout faire, et il vaut mieux prendre ses distances et attendre un peu et ne pas le faire. On remet aux mains.
Oui, tout à fait, parce que le perfectionnisme est parfois en lien avec la procrastination. Admettons que quelqu'un a un examen dans une semaine, puis il commence à étudier à la dernière minute. Bon, cette personne-là qui fait les choses à la dernière minute, inconsciemment peut-être, elle pense que bon, si je n'ai pas la meilleure note de la classe, ben, j'ai mon excuse. C'est parce que j'ai étudié à la dernière minute. C'est pas parce que je suis
donc,
pas assez bonne.
Donc, il y a beaucoup d'auto-sabotage.
Tout à fait. Donc là, cette personne-là qui pense que son estime personnelle est en lien avec son rendement, là, ça peut devenir problématique.
C'est une conduite d'échec.
Exactement. Mm-hmm. Et donc, ça pourrait amener la personne à échouer dans certaines choses. C'est la chose qu'elle aurait voulu le moins dans la vie. Hein?
Donc, ça crée un peu ce qu'on essaie de fuir au final.
Tout à fait.
À peu près.
Tout à fait.
Est-ce que c'est un besoin, la perfection chez les perfectionnistes, ou c'est un désir?
Oh, je pense que c'est... Je ne sais pas. J'imagine que même parfois, c'est une obligation.
C'est une obligation. C'est une obligation. Puisque si on n'est pas perfectionniste et qu'on n'est pas soi-même, puisqu'on n'est pas compatible avec le modèle... qu'on a reçu au départ et qu'on essaye de suivre. Si on est perfectionniste et qu'on ne cherche pas à l'être, on va se dévaloriser, on ne va pas chercher à se faire aimer et on va être... Qu'est-ce qu'on va être? Rien. Rien aux yeux de personne.
Donc le perfectionniste devient un non-choix. C'est même pas un choix d'être perfectionniste.
C'est
un devoir.
Malsain, oui.
Ben, malheureusement, quand la personne a des pensées erronées et quand elle pense que si elle n'est pas parfaite, elle ne vaut rien, ou bien que personne ne l'aime si elle n'est pas parfaite, donc là, elle se met des obligations vraiment, des exigences vraiment élevées qui pourraient l'amener à s'autodétruire. Hein. L'exemple, par exemple, des problèmes sexuels. Un homme qui fait de l'anxiété de performance, donc ça pourrait être du perfectionnisme, ça. Pourrait finir par avoir des problèmes érectiles à cause du perfectionnisme qui est dans sa tête.
Oui, tout à fait, oui, bien sûr.
C'était un exemple assez clair.
Mais si on revient dans le positif quand même de la potentielle perfection, tu as élaboré sur quelque chose tout à l'heure, François, qui était intéressant. Il y a cette idée, et on en a parlé aussi, des domaines. C'est relatif, la perfection, mais dans des domaines scientifiques, mathématiques. Un pharmacien ne peut pas se tromper dans un quart de milligramme d'une dose à donner. Parfois, sur certaines choses, la fenêtre est très petite. Mm-hmm. Dans le travail que tu faisais aussi, cette recherche de perfection-là, elle était présente et elle menait à des résultats qui devaient être là.
Les résultats étaient là, mais c'est vrai que quand on est perfectionniste, comme on doit l'être ou comme il est habituel et reconnu de l'être en chirurgie, le résultat n'est jamais suffisamment bon pour être acceptable par le perfectionniste. C'est toujours, il y a toujours ce petit hiatus, c'est toujours ce paradoxe de Zénon dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'on a beau faire, on n'arrivera jamais jusqu'au bout. On n'arrivera jamais. Et alors c'est là qu'on est frustré. On ne le dit pas. On le dit jamais, on dit bon, c'est acceptable, oui, on compose avec soi-même en se disant bon, la prochaine fois je ferai ça. Mais en fait, le résultat est très bon, mais il n'est pas exactement ce qu'on recherche.
Et je pense que aussi, ça, on a tous en nous, de toute façon, je pense, une partie perfectionniste, une partie où on a, puis je pense que c'est très sain aussi, à un moment donné, il faut lâcher prise, il faut savoir quand, là, je pense que ça me satisfait, ça semble satisfaire tout le monde. Moi, par exemple, quand je fais de la rédaction, tout dépendant du type de boulot que je fais, si je fais vraiment de la traduction et dans un domaine qui est peut-être plus scientifique ou mathématique ou autre, ben là, je dois être extrêmement précis. Mais quand je fais plus de la création, au contraire, là, au contraire, on s'amuse et on se donne des libertés que la langue, normalement, même des fois, ne permettrait pas. Donc,
en plus,
on le fait.
Once upon a time is how it always goes, but I'll make it brief. What was started up with such excitement, now I'd gladly end with really. And what now has become a familiar motif. The nothing is good enough for people like you. You have to have someone take the fall. At their worst could never criticize the way that you do. No, there's no one else I find to undermine or dash a hope quite like you. And you do it so casually too. Cause nothing is good enough for people like you. Take the fall. You can never say what you're looking for, but you'll know it when you hear it, know it when you see it walk through the door. So you said many times before.
À la blague, j'ai commencé l'émission en disant que j'étais une perfectionniste assumée.
Ça se confirme, oui.
Jusqu'ici, l'émission est parfaite.
Hein? On en rit, par exemple, mais sincèrement, ça fait partie des traits, mais on en a parlé. Il y a des côtés sains, il y a des côtés malsains. Faut savoir qu'il y a des gens qui sont consciencieux, il y a des gens qui vont botcher tout et qui vont être très bien là-dedans, puis c'est bien correct. N'en demeure pas moins qu'on a parlé de cet absolu-là. On a parlé également de ce sentiment d'obligation. Donc, je me demande, parce que là, il faut absolument parler de comment on sort de ça, comment on fait pour faire un premier pas en dehors du perfectionnisme quand on voit pas que c'est pas atteignable ou que c'est trop. Est-ce que les perfectionnistes le voient, ça, de toute façon, tu sais?
Là, les perfectionnistes qui le voient d'abord sont pas forcément, c'est assez rare finalement.
C'est pas très grave.
Mais surtout pour essayer d'en sortir, c'est très compliqué parce qu'il y a des barrières énormes et puis ça date donc d'il y a très très longtemps.
Et on parlait que ce bourreau-là qui était auparavant à l'extérieur était intégré, donc ça devient une relation à soi. Là.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui n'ont pas fait le pas et qui sont fatigués là?
Mais si la personne reconnaît d'abord qu'elle est perfectionniste de façon malsaine, c'est déjà un pas vers l'avant parce qu'elle le reconnaît. Mais parfois, si on n'est pas capable de le savoir, on peut demander à un proche à côté de nous, est-ce que tu penses que ce que je fais est excessif? D'accord? Donc, c'est important de voir c'est quoi les pensées de la personne. Si la personne a des pensées du genre « si je ne suis pas tout à fait parfaite, on ne va pas m'accepter » ou bien « si les autres n'approuvent pas de mon comportement, c'est que quelque chose ne va pas chez moi » ou bien « si je ne suis pas parfaite, je vais échouer ». Donc, il y a plein de pensées erronées que peut avoir la personne et qui pourraient l'amener à vivre une souffrance intérieure qui la pousse vers cette tendance au perfectionnisme afin de ne pas s'ouvrir. Mais au final, elle serait en train de s'ouvrir de toute façon. Donc,
c'est-à-dire? Donc,
c'est-à-dire, c'est important d'identifier les domaines dans lesquels la personne vit du perfectionnisme excessif et aller identifier les pensées en lien avec les choses qu'elle fait ou bien les choses qu'elle pense. Et là, après ça, on pourrait remettre en question, aider la personne à remettre en question ces pensées-là pour pouvoir ne plus avoir cette tendance au perfectionnisme, assouplir le perfectionnisme,
mais
si on
comment,
peut.
Comment peut-elle, mais c'est, moi, là, c'est cette question moi, qui me taraude, c'est comment peut-on dire à un perfectionniste, allez, lâche-toi, et comment est-ce que le perfectionniste qui est carapassonné à l'intérieur de lui peut arriver à lâcher ça, à lâcher ses béquilles, sa marchette qui lui permet de tenir debout? Comment est-ce possible? Il va résister?
Exactement, parce que malheureusement, comme dans toute pathologie, on ne peut pas amener quelqu'un à consulter ou bien à changer si la personne n'est pas prête. Et souvent, les perfectionnistes vont vouloir changer lorsqu'ils sont en burn-out, lorsqu'ils sont épuisés, lorsqu'ils vivent beaucoup d'anxiété et que là, ils n'en peuvent plus. Ben là, ils vont venir consulter. Mais
donc, c'est souvent un catalyseur qui fait mal, qui amène quelqu'un à changer. Maintenant, quand la personne prend la peine de se questionner, prend la peine de regarder à l'intérieur, prend la peine de questionner quelqu'un de son entourage, ça peut excessivement aider et objectiver une réalité qui est subjective et qui est plus, c'est plus clair. Là. N'en demeure pas moins que comment cette personne-là, quand elle va faire le choix, qu'est-ce qui va lui coûter le plus cher? Parce que moi, j'ai tout le temps pour m'en dire que quand on fait quelque chose, c'est parce que ça nous sert. Donc, le perfectionnisme sert la personne et on l'a dit tout à l'heure, il y a cette idée de valeur, il y a quelque chose qui est très, très attaché en lui. C'est quoi le coût le plus cher qui finalement est l'obstacle le plus grand à lâcher un perfectionnisme persistant?
Mais avant de lâcher au perfectionnisme persistant, il faut travailler sur les pensées. Parce que si la personne tient à ses croyances erronées et si elle pense que sa valeur est en lien avec le perfectionnisme, elle aura de la difficulté à changer. C'est pour ça qu'on travaille sur les pensées d'abord et sur les comportements dans un deuxième temps.
On parlait du biais attentionnel tout à l'heure en micro fermé, dans la mesure où les perfectionnistes vont souvent avoir cette tendance à regarder ce qui a été mal fait. À travers tout ce qui a été bien, on va regarder ce qui n'a pas été bien, mais c'est complètement à côté de la traque et ce n'est pas réaliste. Donc, de prendre une feuille, un papier, un crayon et de commencer à noter les choses positives, les choses bien, les lignes droites sur notre dessin, est-ce que ça ne pourrait pas commencer à nous sortir de ce biais attentionnel, donc cette attention qui est dirigée de manière erronée vers tout ce qui est à améliorer? On peut-tu s'en aller vers ça tranquillement, autodidactement?
La personne pourrait essayer, mais idéalement, il faut creuser pour voir c'est quoi les causes du perfectionnisme, parce que ça pourrait être en lien avec un trouble de la personnalité, ça pourrait être en lien avec autre chose, avec un schéma d'imperfection et de honte, et là ça prendrait, une thérapie pourrait aider. Mais bon, autodidacte, la personne pourrait, n'importe qui peut aller sur Internet et lire et essayer de s'améliorer, mais si on n'est pas capable de le faire tout seul, c'est important de consulter.
Ça me paraît, oui, parce que c'est dangereux d'aller sur Internet, on se retrouve toujours
Exactement, exactement. Mais tout le monde le fait actuellement.
Ils vont mieux
consulter. Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui sont perfectionnistes et qui sentent qu'ils doivent changer leurs habitudes ou qui ont envie d'en sortir?
Moi, je dirais d'abord, ne vous en faites pas. Il n'y a personne qui veut vous enlever votre perfectionnisme catégoriquement. L'assouplir, ce serait déjà bien parce que n'oublions pas que le perfectionnisme chez ces personnes-là devient comme leur meilleur ami. Et dire à quelqu'un, je vais t'enlever ta meilleure amie, qu'est-ce que tu me donnes en rechange?
Et j'imagine que paradoxalement, le perfectionniste veut soit s'enlever son trait à la perfection et donc complètement ou pas, donc d'aller dans... non, mais tu sais...
Ouais, en fait, son meilleur ami, c'est sa raison d'être. C'est constamment l'objectif qu'il se donne dans sa vie, mais évidemment, on se rend compte quand t'es extrêmement perfectionniste. On parle quand même de perfectionniste maladif, là, à l'extrême. Mais c'est des gens qui sont constamment insatisfaits parce que les attentes qu'ils ont envers eux-mêmes sont inatteignables, sont trop élevées.
Et il faut qu'ils ne gênent plus les autres avec ça.
Absolument.
Donc,
absolument.
Tout à fait. Donc, ne pas s'enlever le perfectionnisme à la perfection, ça serait déjà un premier pas.
Le perfectionniste, c'est pertinent. amant. Ce qu'il veut, mais persiste à prendre son temps. Toujours une petite retouche, une petite patte de mouche. Il préfère reporter et ne pas se presser. Car il peut toujours faire mieux.
Thierry, en plus d'être membre et président du conseil d'administration de CIBL...
Je ne suis plus depuis presque un an.
Ben, quand même. Mais tu es toujours l'homme de la situation en termes de rédaction, de branding.
Oui, ça, pour ma partie création.
Et l'image de nos projets médiatiques. On se rend sur le www.oldry.net. On peut également t'écrire sur...
Ça, c'est un site web absolument imparfait.
On aime ça comme ça.
Quand tu dis cordonnier Bellechaussée,
merci beaucoup d'avoir été là.
Merci infiniment.
François, toujours lecteur de livres audio pour l'organisme affilié au Canalem, Vues et Voix, chroniqueur dans l'émission Aime la vie. On peut t'y entendre chaque semaine avec ta bonne nouvelle médicale. Merci d'avoir été des nôtres. Chirine, tu pratiques toujours à la clinique privée René Layennec sur l'avenue Beaumont à Mont-Royal, où on peut prendre rendez-vous en composant le 514-924-1555 ou encore on t'écrit à cdacac@commercialmapsychologue.ca. Merci beaucoup d'avoir été là. Je dis merci à Jean-Sébastien à la Liberté en régie, Catherine Bourdoron également à la recherche. Et je terminerai en disant que quand la perfection nous enlève le plaisir d'être satisfait, d'être fier de nous, quand ça nous rend inaccessible le sentiment d'accomplissement, il faut donc être super franc et conscient que le désir de perfection est loin d'être parfait et qu'il détient en lui-même toute l'ironie de son propre sort. Et si faire de notre mieux, c'est pas suffisant, il faut se pencher sur notre estime de soi, sur la perception qu'on a de notre propre valeur. Et quand on se considérera suffisant
dans ce qu'on peut apporter, faire de notre mieux sera alors plus que parfait. Merci beaucoup d'avoir été là et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine.
Can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.